découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Nutrithérapie Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver sur Nutri Radio. Merci à toutes et à tous de nous écouter. Si vous souhaitez aller plus loin, soutenir aussi Nutri Radio, rendez-vous sur nutritv.fr. Vous allez pouvoir retrouver des masterclass santé de référence conçues, animées par des experts ainsi que des émissions et documentaires exclusifs. Il y a une nouvelle masterclass qui est mise en ligne tous les 15 jours pour approfondir aussi vos connaissances, rester à la pointe de la santé intégrative. Alors aujourd'hui, nous abordons un thème capital, pas assez ou trop d'eau, une question essentielle pour la santé. Et comme chaque lundi de 10h à 11h, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Paul Curtet. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour à tous, heureux de vous retrouver.
Ben, merci d'être avec nous, comment ça va aujourd'hui?
Écoutez, très bien, voilà, je me suis bien hydraté ce matin, je fais comme tous les matins, mon litre 5 de thé vert.
Alors on parle justement de déshydratation, trop ou pas assez?
Oui, bah la déshydratation, je ne sais pas si chacun d'entre nous a pu en faire l'expérience. Hein. On peut tenir quelques semaines sans manger, mais pas sans boire. Une perte de 5 à 6 % de nos liquides entraîne une forte sensation de fatigue, des maux de tête, une nausée, des engourdissements. Une perte de 15 % peut être mortelle. Donc entre les deux, on peut avoir une bouche sèche, des crampes, des vertiges, des cernes marquées, les yeux deviennent ternes. On constate une peau sèche, un aplatissement des veines, une baisse de la tension artérielle, une accélération du cœur qui cherche à compenser, à la baisse de ce volume sanguin qui nous fait transporter tout ce qui nous est nécessaire, constipation, des urines concentrées, très foncées. Ça, je pense que la plupart d'entre nous ont constaté que l'été, si on ne boit pas beaucoup, ben, les urines deviennent foncées. Apparaît aussi ce qu'on appelle le pli cutané. Si on pince entre deux doigts la peau de la cuisse, du thorax ou du bras, elle revient lentement à l'état initial. Ce pli cutané est causé par un manque d'élasticité de la peau dû à cette déshydratation. Alors, les déshydratations peuvent concerner le sang, la lymphe, les liquides qui circulent autour des cellules. Les causes principales de ces déshydratations sont le plus souvent des efforts intenses et prolongés sans hydratation suffisante. On a vu les marathoniens qui doivent boire. Bon, on en reparlera parce que souvent, ils boivent des eaux trop pures et ils peuvent même en mourir. Ça, si l'eau est très pure, si vous voulez, l'eau, elle va là où il y a plus de minéraux. C'est ce qu'on appelle l'osmose. Ça fait gonfler les cellules du cerveau. On fait un œdème cérébral et on meurt. Il y a chaque année, malheureusement, quelques marathoniens qui boivent de l'eau trop pure, de l'eau quasi distillée. Il y a des bouteilles d'eau, je ne veux pas de citer de nom, qui font de la pub, mais qui sont pratiquement pures. Il n'y a pas de minéraux dedans. Et le résultat, le voilà. Donc, de fortes chaleurs, une fièvre élevée, des diarrhées, des vomissements importants, un excès de restriction sodée, hein, c'est le sel qui retient l'eau, un surdosage en diurétique, bon, pour les gens qui seraient sous ces médicaments. Alors, on les distingue de déshydratation intracellulaire, hein, ou au contraire, un excès de sel, attire l'eau hors des cellules, qui se mettent donc à manquer d'eau en leur sein, ce qui affecte bien évidemment leur fonctionnement. Donc, la déshydratation, comme vous le savez, est un état retrouvé plus communément chez les personnes âgées. Le gouvernement en parle beaucoup chaque été quand il y a des canicules, parce que la personne âgée ressent moins bien la soif, de même les nourrissons et les enfants parfois. Donc, elles ne reconnaissent pas ces personnes qu'elles deviennent déshydratées et se mettent pas, n'ont pas soif forcément et ne boivent pas. Par ailleurs, progressivement, les tissus se déshydratent de plus en plus avec l'âge, pour des raisons multiples. La circulation est moins bonne, les membranes cellulaires sont plus rigides, la fibrose gagne les tissus. Alors que le corps des bébés est le plus hydraté, on l'a vu la semaine dernière, son contenu en eau reste stable pendant la vie adulte, il devient de plus en plus sec chez les seniors, ça fait partie de ces phénomènes du vieillissement, de la sénescence, contribue à conduire peu à peu vers la mort. En ce qui concerne les nourrissons et les jeunes enfants, ils perdent plus de liquide que les enfants plus âgés, et les adultes pendant les périodes de diarrhée ou lorsqu'ils vomissent. Alors l'alcoolisme, la boulimie, où les malades se forcent à vomir après chaque excès alimentaire, la maladie de l'Alzheimer, bon, là on perd le jugement, les notions de ce qu'il faut faire, l'autonomie, les handicaps mentaux, psychiatriques, vulnérabilisent aussi bien sûr pour les mêmes raisons à la déshydratation. De même que la prise donc, de certains médicaments, on a parlé des diurétiques, mais il y a aussi les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'aspirine à forte dose, certains antibiotiques. Et parmi les médicaments qui peuvent interférer avec la sudation, on retrouve certains médicaments antidépresseurs, des médicaments contre les allergies, contre la maladie de Parkinson, des neuroleptiques, médicaments pour la migraine. Et d'autres augmentent ce qu'on appelle les risques d'hyperthermie, hein, sont les hormones thyroïdiennes par exemple, qui accélèrent le cœur, ça fait monter la température, donc les gens se déshydratent plus vite, voilà, et d'autres médicaments qui peuvent être concernés.
Alors l'hydratation non optimale maintenant ?
Oui, alors bon, sans être déshydraté, on peut ne pas avoir l'hydratation optimale. Par exemple, donc souvent les nourrissons, les petits-enfants, les seniors, mais aussi certains sportifs, les buveurs d'alcool, hein, une proportion importante de la population ne boit pas les quantités optimales de liquide. Or, cela affecte tous les systèmes. Un moindre volume sanguin réduit les apports en oxygène et en glucose aux organes, et le premier à être affecté est le cerveau, qui, du fait de sa position haute, doit lutter contre la pesanteur. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les personnes âgées font de l'hypertension. C'est en fait un mécanisme d'adaptation pour améliorer le débit sanguin du cerveau. Les yeux s'enfoncent un peu, d'où les cernes, la peau est moins souple, plus terne, mais ce sont aussi les liquides qui évacuent les déchets métaboliques et les polluants. Une des voies majeures de leur élimination, bien sûr, c'est la vessie. Or, dès que l'on boit moins, afin de réduire la contraction du volume sanguin, le rein, lui, il s'adapte, il va diminuer la quantité d'urine. Et de ce fait, on élimine moins bien tout ce qui mérite de l'être. On l'a vu que c'était associé à des urines plus foncées. Nous allons voir que cela se traduit immédiatement par des baisses de performance physique et intellectuelle, mais à plus long terme, cela contribue aussi à un vieillissement accéléré et à des risques augmentés d'un nombre important de maladies.
On va faire une courte pause et on revient, on parlera donc de l'hyperhydratation aussi, des œdèmes mais aussi des moyens naturels d'équilibrer les fluides dans le corps. Ne bougez pas, restez bien ici sur Nutri Radio.
Nutri-Thérapie Co, Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
On est de retour ici sur Nutri Radio avec le docteur Jean-Paul Curtet. Jean-Paul, on parle de l'eau aujourd'hui.
Absolument.
Et vous êtes en train de boire d'ailleurs.
Plusieurs émissions parce que évidemment c'est quelque chose de très important. Donc on a au moins deux émissions là pour voir l'importance de l'eau et après on abordera les semaines suivantes sa pollution malheureusement et après comment s'en protéger. Donc on a parlé de la déshydratation. Mais évidemment il y a l'effet inverse, hein, c'est-à-dire l'hyperhydratation. On peut être surchargé en eau.
Est-ce que c'est dangereux ?
Alors c'est aussi dangereux parce que ça peut, les tissus peuvent gonfler, on appelle ça des œdèmes. Ces causes d'œdème sont multiples, hein, c'est peut-être des veines trop dilatées, ça renvoie moins bien vers le haut, hein, parce que les veines elles doivent renvoyer le sang des pieds jusqu'au cœur. Ça donne un retour veineux paresseux, une rétention d'eau dans les jambes. C'est aussi favorisé par la sédentarité, hein, le fait que parce que ces pompes, si vous voulez, c'est à plusieurs étages, en fait. Le fait d'appuyer les pieds sur le sol, ça crée une pression. Le contracter les mollets, ça crée une pression. Les cuisses, ça crée une pression. Le périnée, ça crée une pression. Donc, si vous voulez, on cède avec les tensions musculaires pour remonter aussi notre sang. Et ça peut être une insuffisance cardiaque aussi. Bon, la pompe n'est plus assez puissante pour faire circuler efficacement les fluides. Ce qui favorise aussi des rétentions d'eau dans les extrémités. Bien sûr, les cardiologues connaissent bien ce problème. Ce peut être une dénutrition en protéines qui réduit la capacité de l'eau à rester dans les vaisseaux. Les protéines, si vous voulez, permettent d'attraper en quelque sorte l'eau. L'eau, elle se répartit autour de différentes molécules. S'il y a moins de molécules, ben, elle est moins retenue. Donc, quels sont ces facteurs favorisant les œdèmes ? Ben, les excès de sel. L'hypertension sensible au sel, la grossesse, l'insuffisance veineuse, donc circulatoire dans les jambes lourdes, ça peut aller jusqu'aux varices. La chaleur, la chaleur dilate les vaisseaux, donc C'est souvent quand il fait chaud qu'on a ces problèmes de jambes lourdes, de gonflement.
Oui. On a l'impression voilà, d'être gonflé.
Absolument, oui. Bon, ça, c'est aussi plus connu en général des femmes que des hommes, mm-hmm. puisque les œstrogènes ont cet effet, hein, les hormones féminines ont cet effet de perméabiliser les vaisseaux. Hein, ce qui fait que, autour par exemple du syndrome prémenstruel, hein, on peut gonfler. Les femmes ont les hanches qui gonflent, parfois les seins qui gonflent, ça peut même donner des seins sensibles. Donc, si vous voulez, c'est plus connu des femmes que des hommes à cause de cette relation entre les œstrogènes et les capillaires, les tout petits vaisseaux qui nous font circuler l'eau jusqu'au bout des tissus. Bon, ça peut être une inflammation, une intolérance alimentaire, le mal des montagnes, des médicaments de nouveau, l'insuffisance cardiaque dont on a parlé, et puis le manque de protéines. Bon, le plus grave, hein, c'est ce qui arrive aussi aux gens qui montent sur l'Everest, hein, l'œdème aigu du poumon, hein, c'est secondaire à l'inondation ou l'accumulation brutale de liquide dans les poumons. Ça perturbe les échanges gazeux et peut entraîner une insuffisance respiratoire. Hein, c'est ce dont sont morts la plupart des gens qui sont décédés du Covid. Le plus fréquemment, il est dû à une insuffisance cardiaque, à une pneumonie ou à une remontée trop rapide à haute altitude. Alors, la cause la plus fréquente, c'est le transport défectueux du minéral, qui est le principal attracteur de l'eau, le sodium. Si l'on divise un aquarium en deux parts égales, par une membrane poreuse, que l'on verse une salière dans l'un des deux compartiments, au bout de quelques heures, on découvre que la salinité des deux compartiments est devenue égale. C'est la loi de l'osmose. Hein, les minéraux et certaines autres molécules sont attirés dans les liquides où ils sont le moins concentrés. Rappelez-vous de cette extraordinaire capacité de solvant de l'eau. Hein. Or, il y a beaucoup plus de sodium dans le sang et les liquides extracellulaires qu'à l'intérieur des cellules, ce qui fait qu'en permanence, le sodium est attiré à l'intérieur des cellules, c'est l'osmose. Le sodium attire l'eau. De ce fait, toutes les cellules ont tout le temps tendance à gonfler. Donc, pour lutter contre ce risque d'œdème, qui peut aller jusqu'à la déformation, même l'explosion des cellules, une pompe refoule le sodium en l'échangeant contre du potassium, qui fait l'effet inverse. Et le potassium, lui, évidemment, beaucoup plus concentré à l'intérieur des cellules, donc il fuit par osmose. C'est pour ça que la cellule doit échanger en permanence du sodium contre du potassium pour éviter ce gonflement. Donc, son nom, vous le comprenez, c'est logique, c'est la pompe sodium-potassium. Et ça nous coûte beaucoup d'énergie, puisque si on ne fait absolument rien, on pense pas, on bouge pas. Hein, ça s'appelle le métabolisme de base, c'est l'énergie nécessaire pour que le cœur batte, pour qu'on reste en vie, tout simplement, d'accord ? Eh bien, 20% de cette énergie de base, elle est utilisée pour cette pompe à sodium. Donc, lorsque nous sommes tout simplement fatigués, que nos cellules sont moins riches en énergie, parce que l'énergie, chez nous, c'est l'ATP, hein, c'est une molécule motrice de toutes nos fonctions, ben, nos cellules ont moins d'énergie pour faire fonctionner cette pompe, on garde trop de sodium, et ça peut devenir un œdème. On décrit même ce qu'on appelle des œdèmes de fatigue. Et ça, je pense que pas mal de gens l'ont vécu. Hein. Si on est très fatigué, on peut avoir les doigts qui gonflent ou d'autres extrémités.
On n'en parle pas assez, hein, moi, je trouve, des œdèmes de fatigue, par exemple. Les œdèmes tout court, déjà, c'est très limité, mais alors œdèmes de fatigue, j'en avais jamais entendu parler.
Oui, c'est pas très connu. Je ne sais même pas si c'est au programme, je ne me rappelle plus si c'était au programme de médecine. Mais oui, c'est pas toujours bien identifié qu'on peut gonfler uniquement à cause de ça, c'est sûr. Mm-hmm. Une autre raison simple et banale réduit l'ATP, donc c'est le manque de magnésium, hein, qui s'avère intervenir dans chacune des étapes qui mènent des calories, c'est-à-dire en gros, on brûle surtout du glucose et des acides gras, quelques acides aminés, à ce moteur moléculaire, le fameux ATP. Or, ce déficit en magnésium, par contre, est extrêmement fréquent, hein, pour deux raisons. D'abord, un manque d'apport. Chaque Français reçoit par l'alimentation en moyenne 240 mg de magnésium par jour, alors que la recommandation pour ne pas être déficient tourne autour de 400 plutôt. Et une perte excessive, via le stress, augmente sa perte dans les urines. Et ça, du stress, on est fourni de ce côté-là sans réserve en ce moment. La fatigue, donc le stress, le manque de magnésium, contribuent à une efficacité insuffisante de cette pompe et à la rétention d'eau à l'intérieur des cellules. Donc on peut aussi retenir trop d'eau dans les vaisseaux, hein, si on mange trop salé, ça va donner, comme vous le savez tous, l'hypertension. Bon, la seule consommation d'eau n'est donc pas seule en cause dans les mauvaises répartitions de l'eau, que ce soit dans les milieux intra- ou extracellulaires, mais l'équilibre des apports minéraux est aussi très important. Hein, et on aura certainement l'occasion de reparler de l'importance du magnésium dans ces situations.
Est-ce que vous avez des astuces à partager avec nous, justement, concernant ce thème d'aujourd'hui ?
Oui, par exemple, une des conclusions pratiques, d'abord, c'est qu'il faut déjà suffisamment s'hydrater. Hein, bon. Donc, moi, je préfère boire plus en première partie de journée qu'en deuxième, parce que sinon, on se lève trop la nuit. Bon, c'est un truc simple qui était déjà connu de la médecine chinoise depuis très longtemps. Et puis, il ne faut pas boire de l'eau pure. Il faut boire des eaux minéralisées ou alors prendre à côté, en tout cas, au moins du magnésium, puisque, on l'a vu, par l'alimentation, les apports sont trop faibles. Hein, 240 mg en moyenne au lieu de 400. Et avec le stress, on en perd encore plusieurs centaines de milligrammes dans les urines. Hein. Donc, vous voyez que c'est malheureusement... La quasi-totalité des personnes non supplémentées sont déficientes en magnésium et ça va jouer un rôle très important puisque la répartition de l'eau dépend du magnésium. La pompe à sodium dépend du magnésium. Elle pompe 20% de notre énergie.
Et c'est important aussi du coup de faire une bonne cure de magnésium, surtout à l'approche de l'hiver.
Alors je dirais que ce n'est pas une cure, hein, c'est vital. C'est-à-dire que vous vivez sur une triade, hein, c'est-à-dire sur l'oxygène. Si vous arrêtez de respirer, ben vous savez ce qui se passe.
On va n'est plus là.
Oui. les calories. Hein, sans calories, ben oui, on ne peut pas. Ces calories diluées dans l'eau qui vont permettre de circuler. Et le magnésium qui est indispensable à chaque étape de passage de la calorie, du fuel, à l'énergie, l'ATP. Donc en fait, c'est pas une cure, hein, c'est vital. C'est-à-dire que c'est tous les jours qu'on devrait compléter notre alimentation qui est insuffisante en magnésium. Il y a quelques nutriments comme ça, comme la vitamine D, on le sait l'hiver, on n'en fait pas assez à cause du manque de soleil. Bon, le magnésium, c'est tous les jours malheureusement qu'on devrait en fait se complémenter. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent, mais c'est pas systématique et c'est bien dommage.
Oui, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, docteur.
Je vous en prie. Bon. Et puis, alors, je vous propose de nous revoir la semaine prochaine sur les intérêts médicaux d'une bonne hydratation.
Merci beaucoup, Jean-Paul. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Nutrithérapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.